And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations. Their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects. A planet in total disarray.
Order the city police officer on trial for killing Amadou Diallo, who found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of eight-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In the clear, our right on this earth.
People have been annihilated.
Anarchy.
In the clear, our right on this earth.
Another campaign for New York's vacant Senate.
Political and social.
In the clear, our right on this earth. To be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Jazz man have a problem right here in this land. This GNP and GULP slang I can't understand. When we look at the other countries, how they're living in unity, what is wrong with we? I just sit down and grind my teeth. Remember, Indian come from India, Negroes from Africa. We both toil together and we both suffer. Somebody please tell me why we shouldn't agree. Forget political discrimination and let's live like a new nation.
Vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Des Périphériques vous parle. Nous poursuivons le cycle d'émissions consacrées aux discriminations. La lutte contre les discriminations ne peut pas rester étrangère aux enjeux politiques qui, depuis plus de 20 ans, ont substitué au discours de lutte contre les inégalités et de classe prégnant dans la société une forme de différentialisme ethnique à l'ordre du jour des considérations politico-médiatiques culminant ces derniers mois avec les débats autour de l'identité nationale. Quoi qu'il en soit, comme le souligne l'historien Gérard Noiriel, l'image de l'immigration est à ce point négative et dépréciative en France qu'il en découle pour les individus même naturalisés et intégrés une stigmatisation insidieuse difficile à surmonter, puisqu'elle trouve sa source dans des représentations culturelles de l'autre portant l'héritage de siècles d'histoire et d'ostracisme. Dans le cadre de cette émission, vous allez entendre des témoignages et des analyses entrant singulièrement en résonance. D'une part, Fatima Elaoubi, auteure du livre « Prière à la lune » paru en 2006, édition Bachary. Pendant 16 ans, l'auteur a été femme de ménage. À la suite d'un accident qui l'a immobilisée, elle a pu passer du temps à écrire, initialement en alphabète. Entre confession et mélopée, elle raconte son parcours de l'école à la maladie, de la servitude des femmes, au combat contre la disqualification des migrants. Vous écouterez ensuite Tom Terriam, ancien footballeur professionnel, écrivain, auteur de deux romans, « Banlieue noire » 2006, édition Présence africaine, et « En attendant que le bus explose » 2009, édition du Rocher. Il fait partie également d'un collectif d'écrivains et écrivaines qui s'intitule « Qui fait ?» entre parenthèses « Qui fait ?» la France, revendiquant le droit d'être considérés comme des écrivains et écrivaines françaises sans se voir renvoyer sans cesse, pour le meilleur ou le pire, à une traçabilité ethnique qui les épinglerait au tableau des curiosités et des particularismes de la nation. De style, écrivain issu de banlieue et qui s'en est sorti, ou d'origine cela ou ceci. Mais maintenant, écoutons Fatima Elaoubi.
Fatima, vous quittez l'école à 3 ans, je crois. hein, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Vous vous retrouvez en France, donc n'écrivant pas et ne parlant pas le français.
Alors mon travail, c'est un travail, j'ai pas de diplôme, j'ai entendu des grands diplômes, des managers, mais je suis utile pour vous tous, pour y aller travailler, pour y aller gagner de l'argent. Moi j'ai fait nono, femme de ménage, j'ai fait les bureaux, ça veut dire sans moi, vous ne pouvez pas y aller travailler et gagner de l'argent. Et moi j'ai accepté ce travail et je vous remercie pour l'aide que vous m'avez donnée pour que je puisse travailler, élever mes enfants. Mais il y a un problème, je n'ai pas de diplôme, mon diplôme c'est mon corps, je l'utilise pour travailler. Le ménage ça ne se fait pas avec un crayon, avec un regard, avec le corps. Et je suis une femme et j'ai la responsabilité sur moi. Ça veut dire le travail pour moi, c'est ma fierté, ma dignité, l'éducation de mes enfants, leur sourire, leur tranquillité. Je me trouve ici avec mon mari. 13 ans, 16 ans, il n'y a pas de mari, je suis toute seule. Et mes enfants sont les citoyens de demain. Alors, c'est ce travail que j'ai fait, je suis fière de le faire, je le fais avec amour. Moi, j'étais chez mes parents, une artisante. Que j'ai fait le brodé et la couture, toutes les choses que j'ai fait, il faut que je le regarde belle. Et les gens, ils regardent les choses. Alors, j'ai pris l'habitude de faire des choses belles. Je suis toujours une femme qui fabrique. Alors, quand j'ai fait le ménage, j'ai fait de l'art, je fabrique quelque chose. Mais malheureusement, 16 ans du travail, jamais entendu quelqu'un qui a parlé de mon travail, qui a parlé de cette femme, sa utilité. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce que j'ai fait pour les foyers, les personnes âgées, les enfants? Ça me fait mal. Et ce qui me fait plus mal, quand j'ai fait un accident de travail, je suis tombée. Mon corps, je n'utilise pas le côté gauche. J'étais mise à côté, moi et mes enfants. Chez moi, c'est un atelier, là où je fabrique mes enfants, pour qu'ils vont sortir lendemain à la société. Il faut que je donne des bons citoyens. Parce qu'on veut, on ne veut pas, et on est là. Nos enfants, ils sont là. Et l'âge de 10 ans, la petite, il a 10 ans, la grande, il a 13 ans, je me trouve à côté, pas de santé, pas de salaire, avec 600 euros. Et personne n'a parlé, personne a écrit quelque chose, personne n'a expliqué. Ça veut dire combien de femmes, elles sont comme moi, combien des hommes, elles sont comme moi. Et le problème, c'est nos enfants. Si on a blessé ces enfants aujourd'hui, si on, à l'âge de 13 ans, 10 ans, on le laisse dans le besoin, qu'est-ce qu'on va voir demain dans la rue? Et ça me fait mal, j'y écris. Vous voyez, vous trouvez prier à la lune, vous croyez que c'est quelque chose de rêve. C'est vrai, je parle à la lune, je parle de mon enfance dans mon pays. Et après, je dis à la lune, parce que j'ai personne avec qui je parle, je me plains devant la lune, je lui raconte qu'est-ce qui se passe. Mon immigration, mon mariage, où j'habite et mon travail, et qu'est-ce que je veux pour mes enfants. Et qu'est-ce que je viens de dire, c'est pour moi et pour tous les femmes qui sont moi, parce que je sais que notre génération n'est pas beaucoup à l'école, elle n'écrit pas. Et vous, les Français, vous croyez que les choses que vous lisez. Mais nous, on est trop silencieuses. Et pour ça, j'ai préféré de parler en lisant, en écrivant en arabe. Et après, je l'ai traduit moi-même en racontant en français. Et comme ça, il est né ce petit livre. Il est petit, mais il est grand de ce qu'il contient.
À l'origine de ce livre, il y a un accident de travail que vous subissez. Comment? Il y a un accident de travail que vous subissez. Ben, c'est ça, c'est ouais. Et donc, vous tombez... à l'hôpital, sur un centre où il y a des médecins, un service de souffrance au travail. Est-ce que vous pouvez raconter cette...
J'étais orientée à l'hôpital de Nanterre et un service ici s'appelle Souffrance au travail. Il y a deux médecins. Il y a un médecin qui étudie la douleur et un médecin qui écoute. Et avec ces deux médecins, avec l'écoute et l'attention, je suis encore retournée à la société bien réparée. Eh bien, j'ai appris d'autres choses. Ça veut dire, pour écrire, je n'ai pas pensé. Je suis là, je travaille, j'ai fait la poussière, j'ai fait le ménage. Je ne suis pas une femme, j'ai laissé ma féminité à côté, j'ai laissé la poésie à côté, j'ai laissé l'écriture à côté et la lecture parce que quand on fait le ménage, les gens ils disent que c'était une femme de ménage. On n'a pas, on est toujours derrière les gens, on est toujours dans l'ombre, on n'a pas de lumière. Et quand je n'ai pas de lumière, je dis peut-être que ce n'est pas moi, je n'existe pas. Alors je suis devenue un corps qui bouge, qui court pour travailler, pour gagner de l'argent pour mes enfants. La féminité, la femme, au moins, elle était effacée. Alors, grâce à ce service, ce fonds de travail, ils ont pu chercher, ils ont trouvé derrière une âme, une femme, une lecture. Il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter. Si je suis là devant vous aujourd'hui, grâce à ce service et grâce à ces deux médecins, que j'aimerais bien qu'ils se rendent dans tous les médecins, que toutes les femmes ou les hommes qu'ils disent « j'ai la douleur, je ne peux pas y aller travailler, je ne sais pas, il faut qu'on le tient, il faut qu'on l'amène, il faut qu'on l'écoute. » Si peut-être ils ne sont pas valables pour gagner de l'argent, ils seront valables pour leurs enfants qui vont grandir avec un père ou une mère à côté, que demain et après-demain, on ne trouve pas des problèmes de citoyens français parce que mes enfants sont français. Et moi d'ailleurs, je suis française parce que cette terre, j'ai travaillé pour elle, je l'ai aimée. Et j'ai mis mes enfants là-dedans, ça veut dire que je suis française, soit j'ai une nationalité ou j'ai pas. Et c'est pour ça que je parle dans ce livre, les choses que vous ne connaissez pas de cette femme, peut-être une femme qui n'est pas mince, elle n'est pas à la mode, mais elle a un esprit, parce qu'elle a tout donné aux poussières, tout donné au travail, et trouvé des choses pour moi et pour les autres Fatima dans ce livre. Et je remercie le service de l'hôpital Nanterre, ce fonds de travail. Je remercie Mme Pesé et Dr Adeline qui m'ont réparé et m'ont rendu encore à la société valable.
Vous posez une autre question par rapport aux employeurs que vous évoquez dans le livre. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette situation où il y a une situation d'impuissance, où il y a des gens qui vous emploient et où on n'aura aucun droit, c'est-à-dire que on a presque que des obligations. Donc, comment vous avez vécu ça?
Moi, avec mes clients, c'était ma famille. Je ne peux pas dire quelque chose, je ne peux pas mentir que j'ai travaillé 16 ans, je ne sais pas combien de personnes. Pour moi, la patronne, le patron, c'est ma famille. Chez nous, au Maroc, on a la tante, l'oncle et tout. Mais là, quand je me réveille le matin d'y aller travailler, je ne vais pas, on ne toque pas chez les gens. C'est chez moi, c'est ma famille. Je sais que les Français ne sont pas comme nous, mais nous, c'est comme ça. Et là, le problème qui m'a touché, ce n'est pas de l'employé. C'est l'employé, les gens qui l'emploient sont tous pareils. Ils savent c'est le ménage, c'est la saleté, c'est la poussière. Mais moi, pour moi, c'est de l'art que j'ai fait. Je n'entends pas l'estimation. C'est bien, parce qu'il ne peut pas vous donner de travail si vous n'êtes pas bien. Mais il n'y a rien que c'est une femme qui touche la saleté. Peut-être elle aussi, elle est sale. On n'a pas, je ne serai pas invitée à leur fête. Ils ne peuvent pas venir chez moi. Ils ne connaissent pas mes enfants. Ça veut dire, entre nous, l'heure, on rentre à l'heure, on sort à l'heure. Vous voyez, et on fait le travail. On n'a pas le temps peut-être pour parler, ou peut-être cette femme, qu'est-ce qu'il peut nous raconter, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il est là pour essuyer la poussière, pour faire le ménage. Le ménage, non. Je suis une femme comme vous, j'ai un foyer comme vous, et j'y vis avec vous. C'est vrai, la différence, elle est où? Dans l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent. La différence de la statue, dans la vie. Moi aussi, j'étais chez mes parents, quelqu'un. Mes parents, c'était une famille. Mais si la vie qui nous a mélangés là, ils ne me donnent pas de valeur comme je veux, mais je ne l'oblige pas. Ça, on n'oblige pas. Mais ça fait mal. Parce que ce travail que j'ai fait 16 ans, quand je pense à 16 ans, je vois que ce 16 ans, il était perdu. Il est passé dans l'air. Et peut-être que je n'ai pas envie d'y aller. Et combien de femmes et de gens qui meurent de faim, ils ne peuvent pas y aller travailler chez les gens. Pourquoi? Parce que ce travail, ni l'État, il parle, ni la télévision, ni le cinéma, personne ne parle. Même le patron, pour nous, c'est quelqu'un qui vient faire la poussière. Mais nous, je suis un humain, je suis une maman, j'ai une féminité, j'aime les roses, j'aime le parfum. J'aime beaucoup de choses comme vous, sauf les circonstances. Si on va tous travailler dans les bureaux, si on va tous faire des fonctions, qui c'est qui va faire les petites choses? Ben, à l'avenir, personne ne va le faire. Tout le monde il va y aller faire l'école, il va aller trop loin, mais les petits travaillent, qui va aller la rue, qui prépare le pain, qui élève les enfants, qui garde, non, personne. parce qu'on ne fait pas attention à ce petit travail, on ne fait pas attention à ce genre. Et bien là, moi, j'ai dit quand même là qu'il faut... Les Français vont pour voir le théâtre, mais notre pièce, elle est écrite sur leur mur. Ils partent pour écouter les chansons, mais notre mélodie, elle est sur leur chemise, mais elle l'entend pas. Et j'aime bien qu'on change peut-être un petit peu. On toc-toc sur l'esprit pour on est humain, on est convaincant, on est intelligent, on est utile. Pour qu'on peut y aller au travail, je chante, j'y vais y aller travailler. Je travaille avec vous, c'est pas chez vous. Vous, vous renseignez mon enfant au lycée, moi je garde la vôtre à la maison. Et je crois que c'est en harmonie qu'on va aimer tous y aller travailler, faire des petits boulots, au mieux de rester au chômage, ou rester dans la rue ou dire je peux pas. Et peut-être par les petites choses, on peut faire bouger la société, on peut gagner beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez retrouvé une femme qui est dans
la rue? Oui, la femme qui était au moins, elle était effacée avec le... Grâce à ce Français Travail, un service où il y a deux médecins. C'est un psychothérapeute et un médecin qui écoute la douleur. Et cette femme, qui, quand je lui dis, j'ai pas ça, pourquoi c'est ça, il me dit, non, il me répond sur les questions que je pose. Parce qu'avant, je pose la question toute seule. Cette femme, moi, elle est partie quand je suis dans une chambre de bonne de 7 étages, de 7 mètres. Je suis venue, j'ai laissé à mes autres chez mes parents au troisième étage. Cette femme, elle est partie quand j'ai trouvé mon mari, le travail public. Cette femme, elle est partie quand j'ai touché la, j'ai vu voir les femmes, elles s'habillent, elles sont belles, elles sortent, et moi j'ai fait la poussière. Vous voyez, j'ai jamais touché ce travail, j'étais une artisante. Et cette femme, elle commence à partir petit à petit. Mais cette femme, quand il y a mes enfants, elle est partie, mais il a laissé un corps. Encore, j'ai lutté, j'ai travaillé pour que mes filles, ils peuvent y aller loin, ils peuvent faire les études. Et c'est pourquoi je c'est pas que j'ai pas envie de vous voir au travailler, parce que l'autre avec qui je travaille, il me favorise pas. Et parce que j'ai peur que ma fille, demain, au lycée, à côté de sa copine, la copine va dire maman c'est un médecin, maman c'est un avocate, maman mais ma fille va dire, maman, c'était une femme de ménage. Et c'est ça le problème, nos enfants. Nos enfants sont très intelligents, mais le travail qu'ils font, les parents, ça tape très fort sur l'esprit des enfants. Et c'est pour ça, cette femme, elle était fâchée, elle était partie. Et quand j'ai arrêté de travailler il y a 7 ans, je suis en valide de 2e catégorie, je touche 600 euros, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais la femme, il commence à venir grâce aux paroles que j'ai dans ce service et des questions que je pose. Et petit à petit, cette femme, elle est là. Il a donné un poésie comment elle était petite. Il a donné le point de vue. Il a donné c'est quoi ce travail, qu'est-ce qu'elle peut faire, le travail. Le travail, surtout pour la femme, c'est la fierté que je ne montre pas ma main, que je ne baisse pas la tête devant un homme, je peux élever mes enfants. Ce n'est pas le luxe, mais c'est la nécessité. Travail, je peux vivre propre et tranquille. J'ai dit, je suis là, c'est ma place, je peux faire quelque chose pour la société. Mais il ne faut pas qu'elle me tue, il ne faut pas que mon corps il se casse. J'ai donné tout. Alors, le jour que je ne peux pas travailler, il ne faut pas me mettre à côté avec ces 100 euros. Les enfants, ils vont y aller voler, ils vont y aller faire la délinquance. Et c'est là où il y a le problème. Et je ne veux pas, moi j'aime bien mes enfants, j'aime bien la France. Je ne veux pas avoir tout l'effort qu'elle a fait, qu'il est tombé dans l'eau pour donner des enfants. Regardez les parents, regardez qu'est-ce qui se passe au foyer, on va voir les problèmes des enfants.
Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage. On a dormi à jeun dans la neige et on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre, on somme les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre. Parfois il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. Versificateur notoire, chaque rime est une cascade. Dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fades. Dans ma vie, j'écris plus de textes que ne reflète d'étoiles le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade. J'ai interrogé les bons médiums pour chasser les mauvais djinns. Et j'ai répondu à Mini quand ma mère m'a dit Mbalen Hedjam. J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens possédés par le jazz, pour ne pas avoir à jouer à cache-cache avec le diable. Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, John Banzai, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au vert et l'oralité passe par nous. Le verbe est une clé indispensable, dehors on nous demande des mots de passe partout. Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, grand corps malade, regarde-nous. On a traversé des rivières de boue à la nage, on a dormi à jeun dans la neige, et on est encore debout. Ndeysan biddo janano, ko biddo lamdo fuladu yimtanindo. Ndeysan biddo janano, ko duwaja bijeneba yimtanindo.
Nous allons reprendre notre mission avec Tom Teriam.
Donc, je suis avec Tom Teriam, que j'avais déjà accueilli lors d'un entretien à l'occasion de la sortie de son premier livre chez Présence Africaine, intitulé Banlieue Noire. Et là, je retrouve Tom T à l'occasion donc de la sortie d'un ouvrage collectif composé de nouvelles. Ça sort chez Stock, aux éditions Stock, et ça s'intitule « Collectif qui fait la France, chronique d'une société annoncée ». Alors il y a un jeu de mots aussi sur « qui fait la France », parce que c'est « qui fait la France » et puis « qui fait la France ». On y reviendra. Et Il y a un certain nombre de nouvelles qui ont été écrites par ce collectif. Donc Tom T. Riam est bien évidemment écrivain. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est, vu que c'est un ouvrage collectif de nouvelles, mais qui est précédé d'un manifeste, donc vous avez voulu faire poser un acte symbolique assez fort. Et comment est né déjà ces affinités entre ces différents écrivains? Donc à quelle occasion ça s'est fait et quel a été le processus de constitution de ce collectif? Parce que vous avez un site, vous avez beaucoup de choses, etc. etc.
Ben, en fait, ça s'est fait naturellement. On est un groupe de personnes, on va dire, des auteurs issus de l'immigration pour la plupart, qui viennent de quartiers difficiles. Et la littérature est un petit monde, donc on s'est rencontrés rapidement par l'intermédiaire de Mohamed Razan, qui est président de l'association. Donc moi, personnellement, je suis arrivé un peu à la fin. Il a entendu parler de mon livre, Banlieue Noire. Il a vu que c'était proche de ce qu'écrivent les autres auteurs. Donc voilà, à partir de là, il m'a contacté et j'ai intégré le collectif. Je veux dire que je suis très content d'être avec ces gens-là parce qu'on partage les mêmes opinions. On a tous envie de... Je pense qu'on a un vécu qui nous permette de dire beaucoup de choses. Et donc voilà, quoi, c'est une aventure. J'espère que... On espère par la suite faire encore d'autres nouvelles. Pouvoir faire... On a par exemple l'intention de faire un ouvrage collectif écrit à plusieurs mains. Donc voilà, c'est essayer de faire bouger les choses, parce que faut dire, il y a énormément de gens qui vivent dans les quartiers, même ailleurs, pas que dans les quartiers, qui ont des choses à dire, qui écrivent, et on les bloque un peu. Donc par l'intermédiaire de ce collectif, on espère faire un peu bouger les choses, essayer de s'aider. C'est pour ça qu'on est plusieurs, essayer de s'aider, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours et pouvoir écrire des choses qui nous concernent.
Donc il y a dans cette association, il y a une vocation de l'association. Donc il y a à stimuler certaines actions, à offrir justement l'opportunité à un champ de créativité à des gens qui se voient en quelque sorte barrer l'accès le plus souvent à leur propre expression, à leur propre créativité.
Voilà, on espère être une vitrine. En fait, on espère être une vitrine. On a été édité chez Stock, qui n'est pas un petit éditeur. Je pense qu'on va avoir une certaine visibilité. Aujourd'hui encore, là, on a eu beaucoup de, on va dire, de presse. Voilà, on sait que les gens savent qu'on existe. Et maintenant, c'est par cette visibilité, permettre aux petits des quartiers, aux petits de chez nous, même ailleurs. Je veux pas qu'on prenne ça pour un truc ethnique ou social. Ça s'adresse à tout le monde. Et donc voilà, quoi. Le but, c'est de pouvoir, avec l'argent qu'on va récolter déjà pour cette nouvelle et avec notre notoriété, pouvoir justement aller dans les quartiers et ailleurs faire des ateliers, que ce soit des ateliers d'écriture, que ce soit musical, que ce soit cinématographique, pour donner la chance aux jeunes qui ont deux fois, qui connaissent pas trop, qui sont un peu, qui restent un peu dans leur faut dire ce qui restent un peu dans leur milieu, pouvoir leur donner envie de faire des choses et de croire en eux et de faire des initiatives.
Justement, dans le manifeste introductif à cet ensemble de nouvelles, il y a cette phrase « parce que nous pensons que la France est un pays moderne, dont le vivre ensemble c'est d'abord par le décloisonnement des mentalités, la reconnaissance des souffrances particulières et la mise en récit de sa diversité et de ses imaginaires. »
Bien sûr. Donc, moi, nous, on est souvent, faut dire ce qu'il y a, on est souvent catalogués comme écrivains de banlieue. On est un peu en marge. Donc voilà, c'est dur au niveau littérature, c'est un milieu bourgeois, faut dire ce qui est, c'est un milieu qui se regarde le nombril. qui a du mal à accepter les gens qui viennent comme ça des, d'endroits dont ils n'ont pas trop l'habitude. Donc maintenant, voilà, faut, la France est composée de personnes qui viennent d'horizons différents. Il y a des avant, on en parlait, il y a les Italiens qui sont arrivés, les Polonais. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui viennent issus d'Afrique. Et donc voilà, nous, notre but, c'est pas de prendre la place des autres, c'est de qu'il y ait une diversité, que chacun ait le droit de dire ce qu'il a à dire. Et voilà, et être défini comme des écrivains à part entière et qui écrivent comme un gars qui habite dans son village du Cantal, écrit comme une personne qui habite à Paris, écrit. Il faut pas qu'il y ait de différence, il y a trop de différence aujourd'hui. Et on le voit dans la littérature et aussi dans d'autres milieux. On aime bien mettre des étiquettes, mettre les gens dans certaines catégories. Et voilà, notre but, c'est que la France est un pays multiple et que chacun a des histoires à raconter, peu importe d'où ils viennent. Et donc notre but, c'est de... Voilà quoi, c'est la première pierre, c'est la première fois qu'il y a un collectif de personnes qui veulent faire avancer les choses. Donc voilà, on espère pouvoir permettre aux gens de faire quelque chose.
Justement, par rapport à cet étiquetage ou la création de stéréotypes, ce que tu me disais par ailleurs, que tu essayais de faire en sorte, de dire, écoutez, je ne suis pas un écrivain de banlieue, c'est-à-dire je ne suis pas une curiosité littéraire en marge de la littérature, je suis tout simplement un écrivain. Il se trouve qu'effectivement, mon expérience en banlieue et mon matériau littéraire me permettant d'élaborer mon écriture, c'est tout. Et ça me faisait penser un peu à un écrivain, Cossier Fouy, qui avait écrit un article dans Le Monde en disant, mais pourquoi on parle des écrivains africains? On peut dire, moi je suis écrivain togolais, pourquoi on fait cas d'une écriture africaine? Je veux dire, on peut dire c'est un écrivain roumain, c'est un écrivain américain, c'est un écrivain togolais. Mais là, lorsqu'il s'agit d'écrivains aujourd'hui d'Afrique, on dit un écrivain africain. Non, l'Afrique est une mosaïque de pays. Et on a tendance à essayer de créer une espèce de particularité qui ne prend pas la mesure du fait que c'est pas, comme tu me disais, moi je suis pas un écrivain de banlieue, je suis un écrivain tout court, je travaille mon style, je travaille l'écriture.
Je suis d'abord un écrivain qui a écrit une histoire en banlieue. Le banlieue, ce n'est qu'un lieu, ça s'arrête là. Après, mon histoire, c'est une histoire normale qui se passe en banlieue, mais c'est pas parce que mon histoire se passe en banlieue que je suis un écrivain de banlieue, comme une personne qui va écrire son livre sur, comme je disais tout à l'heure, dans le Cantal, son lieu, son inspiration, il l'a puisé dans le Cantal, c'est pas un écrivain du Cantal. Chacun écrit, prend ce qu'il inspire déjà, mais après chacun, c'est de l'écriture, c'est un roman, point barre. Moi je me rappelle quand j'ai écrit Banlieue Noire, j'étais dans une maison d'édition avant Présence Africaine, ils savaient pas où me placer, ils avaient pas l'habitude, ils avaient pas déjà mon style d'écriture. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des gens qui écrivent comme moi. Et ils ne savaient pas. Ça prouve bien le problème. C'est que on essaie de placer quoi, c'est le produit. Alors que les gens, quand ils lisent mon livre, ils n'en ont rien à faire de savoir que si je suis un écrivain de banlieue, si je suis un écrivain du Limousin, si je suis... Ils veulent lire une belle histoire. C'est tout ce qu'on demande. C'est que voilà... Et y a, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a quand même des petits relents, on va dire racistes. Ouais, faut le placer là, il est noir, il est jeune, donc il est ceci. Je me demande même si j'avais pas vécu en banlieue, on m'aurait pas casé dans la banlieue. C'est pour dire qu'encore il y a les esprits ont du mal à s'ouvrir.
Il y a peut-être aussi une attitude paternaliste même, c'est-à-dire un espèce d'élan de générosité qui lui-même trahit un peu ce racisme. Bien parce sûr, que c'est plutôt dire, regardez, les jeunes de banlieue s'expriment, ils sont appropriés l'outil littéraire, ça fait du bien, etc.
Voilà, mais sans aller trop loin, c'est aussi l'envie de pas trop non plus de mettre dans une case et pas non plus le laisser faire ce qu'il a envie de faire, ce que soit un romancier comme tous les autres. D'écrivain de banlieue, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, t'es un écrivain. On t'a laissé ta chance. Voilà, moi je te dis franchement, ça me dérange pas énormément, tu vois, parce que j'ai vu Banlieue Noire, il a été lu par des gens venus de tout, des horizons, d'horizons complètement différents. Et je vois très bien que c'est pas le problème du lecteur, c'est plutôt le problème de ceux qui sont à la tête de ça, quoi. Mmh. C'est surtout eux qui ont du mal à, qui sont encore dans leur schéma, dans leur esprit, ils sont encore dans le, voilà, quoi. Mais sinon, moi personnellement, c'était plus un problème pour eux que pour moi.
Et justement, on évoquait ce que j'aimerais revenir sur Banlieue Noire, parce que l'ouvrage était quand même, c'est un ouvrage qui se passait en banlieue, mais en même temps, il y avait dans ta manière de décrire la banlieue, il n'y avait pas une sorte de revendication ou d'adhésion à ce qui serait une forme de pureté de la banlieue ou des choses comme ça. Il y avait au contraire un espèce de ton très très ironique. De se distancier, c'est-à-dire que ce qui interfère entre nous et la banlieue, ce sont des images médiatiques, c'est des tas de choses comme ça, c'est des images qui distordent notre perception de la réalité, et que ça soit dans un sens positif ou dans un sens négatif d'ailleurs, ton écriture disait mais attention, lorsqu'on parle de la banlieue, je ne suis pas en train de vous écrire un récit de pureté, d'idéalisation d'un monde qui serait totalement opprimé, il serait totalement pur et innocent. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses, c'est très complexe, et il faut travailler sur les représentations de la banlieue, et il faut avoir une grande distanciation par rapport à la perception qu'on a de la banlieue aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi, de dire, mais attention, il y a plein de monde dans les banlieues, c'est pas... On dit la banlieue, de quoi en parle-t-on ?
Voilà, souvent quand on parle de la banlieue, on a l'impression de parler de 250 personnes qui se ressemblent tous, qui font tous la même chose et qui sont complètement différents des personnes qui vivent à l'extérieur de la banlieue. Mon ouvrage le prouve. Déjà, je pense que penser comme ça, déjà, c'est un manque de respect par rapport à des millions de personnes qui vivent dans ces banlieues. Et voilà, c'est que c'est des gens, t'as des banlieues, c'est quoi une banlieue ? Neuilly, c'est une banlieue, Courbevoie, c'est une banlieue, Asnières, c'est une banlieue. Dans ces banlieues, il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent moins. Donc voilà, maintenant le but c'était de montrer aussi, voilà, je raconte l'histoire de personnages, et ces personnages auraient pu très bien, je pense, faire la même chose à Paris. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que quand les gens ont lu Banlieue Noire, ils se sont reconnus dans ces personnages, ils se sont dit, c'est l'humanité qui les intéressait, ils se sont dit que voilà, c'est une histoire qui touche tout le monde, qui peut arriver à tout le monde, et qui... voilà, c'est pas différent de... C'est pas une autre planète, c'est à côté de vous, c'est des personnes qui ont leur souffrance, c'est des êtres humains comme tout le monde, et qui ont un jour, quand on dit banlieue noire, qui ont un jour basculé, pas spécialement parce qu'ils habitent en banlieue, mais parce qu'ils étaient en souffrance ou parce qu'ils ont été influencés, comme nous, comme tout le monde peut être influencé, comme tout le monde peut souffrir n'importe où.
Moi, ce que j'aimerais, peut-être on pourrait discuter de ça, c'est qu'il y a toujours ce cliché maintenant qui... Lorsqu'il y a des gens sur la banlieue qui sont, ou que ce soit des sportifs par exemple, on dit « Ah, oh, regardez, il a réussi dans le sport, mais il aurait pu mal tourner. » Et eux-mêmes avouent, si je n'avais pas fait du sport... J'aurais certainement mal tourné. Alors, c'est intéressant parce que on prend toujours à témoin les jeunes des banlieues en disant, regardez, ils auraient pu mal tourner, ils étaient destinés à mal tourner parce qu'ils habitaient en banlieue, ils ont bien tourné. Mais bon, finalement, est-ce qu'ils ont bien tourné? Est-ce qu'ils sont plus heureux de s'être intégrés dans une société où il y a encore des injustices sociales criantes, il y a encore des discriminations? Donc, il y a un peu j'ai l'impression que la banlieue, c'est un peu, au niveau politique, sert une sorte de discours très moralisateur, quoi, et très conservateur. Mmh. Et c'est devenu un peu ça. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, mais je trouve qu'on voit bien, tu vois, on voit la pauvreté du débat, quoi. L'autre, il est footballeur, il a réussi. S'il avait pas réussi dans le football, il serait devenu une racaille. Donc voilà, ça prouve bien qu'on voit bien les gens qui vivent en banlieue sous les clichés, soit footballeur ou bien soit racaille, alors que j'ai des sœurs qui vivent en banlieue, il y en a une qui est informaticienne, il y en a une qui travaille dans le management, il y en a une qui est prof, je connais des filles qui galèrent aussi, voilà quoi, c'est... Parce que ça prouve bien qu'à la télé, on montre quoi ? On montre le footballeur qui a réussi, les seules personnes qui connaissent le banlieue, c'est le footballeur qui a réussi, ou bien le mec en casquette qui vend du shit. Donc voilà, moi, personnellement, tu vois tout de suite, mon réalisateur, ouais, ils aiment bien dire que il a eu de la chance, il a réussi. Qu'est-ce qu'ils en savent s'il avait pas réussi, il avait pas réussi dans le football, il serait devenu racaille. Pourquoi? Pour quelle raison? Il peut pas. Il est parti à l'école, non? On va à l'école. On peut faire autre chose. Il est où le problème? C'est le débat. C'est le pouvoir des, qu'on le veuille ou non, le pouvoir des médias, l'image qu'on montre. Tant que ça sera comme ça, bah, les gens qui vivent à l'extérieur, qui ne voient pas ces gens qui vivent dans les quartiers, ben ils ont toujours cette image-là. Je peux comprendre quand on vient de l'extérieur, quand on habite je sais pas où et qu'on n'est pas toujours au contact de ces personnes-là, qu'on puisse penser ça. Mais justement, après, il faut faire l'effort, chacun doit faire l'effort, voilà. Puis tout doit se faire naturellement, quoi. Je pense pas que, parce que j'ai pas envie de dire faire l'effort, aller vers ces gens, non. C'est chacun doit se mélanger, chacun doit avoir son opinion personnelle et faire les choses. Moi, je me suis pas fermé. J'ai écrit un livre. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire ce livre, les gens, même du côté des banlieusards, des gens qui vivent dans ma cité, les gens se disent, mais qu'est-ce que t'écris un livre? C'est pas pour nous écrire. C'est pour les fils à papa de l'autre côté. Et alors, après, c'est chacun de faire son effort. Ouais. Moi, je suis parti, tac. Je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit, c'est pas pour moi. C'est pas. Et ça doit être partout pareil. Pas s'arrêter à ce qu'on voit et faire les choses comme on a envie de les faire. Et voilà, après.
Ce que je trouve plus intéressant, c'est la création de collectifs. Parce que c'est vrai que dans la littérature, depuis pas mal de temps, hein, depuis quelques décennies, il semble qu'il y ait justement, bon, il y a quelque chose de très, très, très arrogant, quoi, dans la manière dont la littérature est présentée. Donc une espèce de préciosité, un peu de gens, un peu avec des chemises blanches, Rebbe et CBG, quelque chose d'une grande maîtrise, un grand retrait par rapport aux choses de la vie, etc., etc. Les collectifs, il y avait beaucoup de collectifs, hein, tout au long du XXe siècle, souvent dans l'art, bon, les artistes se sont agglomérés en collectif parce qu'ils savaient qu'ils étaient en mesure de créer un rapport de force, plus que s'ils avaient suivi des voies individuelles. Là, on a plutôt des gens qui travaillent pour leur propre boutique et qui sont dans des logiques de concurrence arides et très, très close sur soi, quoi, hein, donc dans la littérature. Et là, c'est intéressant l'introduction d'un collectif, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui de collectifs de jeunes écrivains qui se réunissent et qui ont pas simplement à faire entendre des minorités culturelles qui seraient censées représentées par l'écriture, mais de dire, mais il y a une forme d'esthétique contemporaine à trouver. Il y a une forme de recherche. Et voilà, nous sommes en recherche, nous sommes sur un chemin, nous sommes sur une voie, et nous plaidons en quelque sorte, parce que ce combat, il était quand même très présent. Par exemple, Tangras, qui parlait de Julien Gray dans les années 50, il plaidait pour une littérature mineure, voilà. Il disait, moi je fais de la littérature mineure. Après, il a eu le prix Goncourt, c'était pas un problème, mais c'était de dire, mais pourquoi, à un moment donné, on a une représentation, parce que la littérature, la représentation qu'on a de la littérature, c'est une représentation qui est construite par une certaine classe sociale, et qui dit jamais qu'elle est une certaine classe sociale. Elle va dire, par exemple, voilà, nous on fait de la littérature, et puis les gens qui sont dans les banlieues, ils font de l'expression sociale, par exemple. C'est terriblement violent, c'est une violence symbolique qui est terrible. Parce que eux-mêmes, ils font pas de l'expression sociale, ils n'appartiennent pas à la société, ils ne sont pas le reflet d'une classe sociale, tu vois. Et ça, c'est assez piégeux, quoi, comme discours.
Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, la littérature, c'est devenu, je vais pas dire un business, mais c'est devenu, je comprends pas comment ça se fait qu'on voit les mêmes écrire. Comment, je comprends pas que c'est quelque chose de, je sais pas, c'est quelque chose quand même, quand on prend un livre, c'est pas pour rien, quoi. On prend un livre parce qu'on a envie d'apprendre des choses et que ça nous bouscule. Et quand tu vois que c'est triste de voir la culture. Lire un livre, ça reprendra de la culture, de voir que c'est des gens qui n'ont rien à dire, quoi. La plupart des gens, c'est des gens qui n'ont rien à raconter. Et c'est comme, t'as l'impression que c'est comme une entreprise où les patrons, il n'y a que les patrons qui ont le droit d'écrire et le reste, ils travaillent pour ces patrons-là, quoi. Et donc voilà, quoi, c'est triste. Et justement, notre but, c'était, parce que la plupart des gens de ce collectif se sentait seul par rapport à ça, dans ce milieu-là. Et c'était une envie, justement, c'était une envie de rassembler nos forces pour, justement, pour lutter contre ça, je trouve. Parce qu'on ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, tout le monde va ensemble, au niveau des grands groupes, au niveau des gens qui distribuent, tu vois, c'est un petit milieu entre eux et ils s'organisent pour vendre leurs livres, alors que c'est pas ce qu'il y a de mieux, ce qu'ils font. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc notre but, c'était de se battre contre ça, donner la parole à tout le monde. Que les gens de ce milieu écrivent des livres, c'est pas un problème. On s'en fout.
Tous les membres du collectif ont publié quasiment.
Tous ont publié, tous ont sorti des livres qui se sont bien vendus pour un premier roman. On a Faiz Again qui a été la meilleure vente à Kif Kif Demain en 2004. Elle a vendu plus de 200 000 livres. La moyenne, c'est 800 livres pour un premier roman. On a tous vendu plus de 3000 livres. Par exemple, il y en a que deux ou trois qui n'ont pas écrit. Le reste, on a tous vendu plus de 3000 livres. Et aujourd'hui encore, non, on préfère mettre en avant des gens qui parlent de leur histoire de papier peint ou de leur crise de la quarantaine ou je sais pas quoi, des histoires avec un avocat qui tombe amoureux de sa secrétaire ou des histoires qui parlent à personne. Alors que nous, on est là et voilà, ça prouve que les lecteurs sont demandeurs et qu'ils attendent que ça.
Mais vous êtes rencontrés, quand ça s'est constitué, vous connaissiez déjà par les textes ?
Justement, comme je t'ai dit, c'est rencontre des auteurs. C'est chacun, tu sais, c'est un petit milieu. On a tout de suite, chacun se connaissait plus ou moins. Et voilà, on s'est dit, voilà, il faut qu'on se réunisse pour faire quelque chose. À plusieurs, on est plus fort. Et donc voilà, notre but, c'était de nous réunir pour donner une voix à ce qu'on fait et pour pouvoir parler de ces gens qu'on appelle, nous, les invisibles, ces gens dont on parle que de manière... avec plein de clichés, de manière négative. Si on n'a rien à raconter, quand il y en a un qui raconte une histoire, c'est déjà pas mal, mais qu'il faut pas laisser trop d'histoires, faut pas leur laisser trop de champs. Et donc voilà, nous, notre but c'est de montrer qui on est et de montrer qu'on est là et qu'on a des choses à dire et que les gens on reflète plus la réalité que c'est rigolo. C'est rigolo qu'on voit chaque jour et qui raconte de la merde.
Non mais c'est... Donc le collectif, il a vocation aussi à accueillir, à s'ouvrir, à encourager aussi des gens qui, par exemple, auraient envie d'écrire, pensent que c'est pas pour eux, que ça leur est pas destiné, que c'est... qui auraient envie d'avoir accès à l'écriture et qui pensent que c'est irréalisable parce que c'est pas leur monde, parce que...
Un peu, et puis je veux dire que c'est à nous aussi de faire l'effort. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la faute des autres, et voilà, nous aussi on a notre part de responsabilité. Quand je te disais tout à l'heure, quand j'ai écrit mon premier livre, tout le monde, je me rappelle dans mon quartier, il rigolait en cachette. Voilà, c'est à nous, justement, on est sur le terrain, on est motivé.
Et quand ils ont lu après
Quand ils ont lu, ils ont pensé à autre chose. Il y en a beaucoup qu'on dit, moi... Franchement, Tom T, merci. Franchement, chapeau. Franchement, ton livre. On est fiers de toi et voilà. C'est que comme ça. C'est que quand il y a des gens comme moi ou d'autres, quand ils font ce qu'ils ont à faire, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Donc notre but, c'est voilà, justement monter, motiver les types, leur donner envie de faire des projets, de s'investir, dire qu'ils sont en France et c'est chez eux aussi. Et qu'eux aussi, qu'eux aussi ont leur mot à dire. Voilà, c'est donner la possibilité à ces gens de s'exprimer et de ne pas avoir peur ou pas être resté dans leur casse sociale, se dire que c'est pas possible. Voilà, après c'est à eux aussi de faire l'effort.
On avait, avant de commencer cet enregistrement, on avait évoqué la question des discriminations notamment. En disant que, justement, notamment par rapport à la discrimination positive, c'est-à-dire à la fois il y a la nécessité de revendiquer des identités, parce que ces identités sont la plupart du temps spoliées ou déniées. Et en même temps, le sens d'une évolution dans une société où il y aurait de moins de discrimination, c'est de dépasser aussi la question des identités, faire que ça ne devienne plus un problème, faire qu'effectivement, au niveau des pratiques culturelles, sociales, relationnelles, que bizarrement, cette question des identités se gomme, s'estompe. Et que les gens n'aient plus besoin finalement de même penser qu'ils sont en train d'être tolérants vis-à-vis d'un, qu'ils ont un devoir de tolérance vis-à-vis d'un maghrébin, vis-à-vis d'un noir, vis-à-vis, etc., etc.
Poser moins de questions, pas se dire voir un noir, un arabe, un chinois à une place et pas être étonné, quoi. C'est ça le but premier, c'est que c'est à nous de faire les choses. La discrimination positive, c'est bien beau, mais si demain encore on se force à prendre une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, c'est inutile, ça avance pas, parce que ça sera toujours des actes forcés. Donc il faut que ça se fasse naturellement. C'est le but, c'est chacun doit comprendre qu'il est là pour longtemps, qu'il a à ses côtés il a une personne qui vient peut-être d'un autre endroit du monde, mais qu'il est là, qu'il est à côté de lui, et que voilà, que c'est pas ça doit pas être un acte héroïque de prendre une personne différente pour dans son entreprise ou dans ce que la personne veut faire. Ça doit être naturel, quoi, c'est le but. Maintenant, la discrimination positive, ouais, on peut dire que ça peut être intéressant pour décloisonner les mentalités, mais si encore demain la personne se force, ça se fait pas naturellement, c'est qu'il y a un problème quelque part, et que au fond il y a un malaise. Mm-hmm. Au fond il y a un malaise. Donc voilà, après c'est aussi à chacun de... Que ce soit dans tous les domaines, après que ce soit chacun, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans la vie de tous les jours, pas montrer les gens du doigt, pas dire qu'ils sont différents, parce que le pouvoir médiatique est très important. Il empêche, quand tu montres des gens qui font toujours la même chose, qui sont... Faire croire qu'il n'y a que des voyous d'un côté et que des gens bien de l'autre... Après, c'est normal que cette mentalité perdure. Après, c'est la politique qui fait ça. C'est plein de gens qui font ça. C'est nous-mêmes aussi de dépasser ces barrières-là.
Et tu m'avais dit la dernière fois que tu travaillais un deuxième ouvrage, un deuxième roman, là, qui était...
Ouais, je parle d'un roman qui s'appelle Parce que je suis libre, et je parle justement de personnes qui vivent... tous dans le même immeuble, qui viennent de milieux complètement différents. T'as un clochard, un mec un peu en marge, un mec qui sort de prison, une jeune fille qui vient de quitter son mec, deux vieux à la retraite, un chauffeur de bus. Ils ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils vivent dans le même endroit et ils vont se croiser. Et voilà, ils vont jusqu'au final, où il va se passer plein de choses. Tu vois, c'est histoire de justement montrer que les préjugés sont tenaces et qu'ils nous empêchent de faire beaucoup de choses.
Mais justement, par rapport à la force de ces préjugés-là, il y a peut-être un aspect qu'on pourrait évoquer, c'est notamment dans le texte manifeste. C'est aussi de dire, mais attendez, nous on ne vous demande pas une place dans cette France-là qui ne serait pas la nôtre, c'est notre pays. Donc c'est ce pays qui... c'est la France ne vous appartient pas, voilà, de dire ça aussi. Hein. C'est-à-dire que on est citoyen en France, qui est des xénophobes, qui est des racistes, ok, ça c'est une réalité, mais on n'a pas faire amende honorable. Ou faire le dos rond pour se faire accepter, ou avoir une espèce de docilité sociale pour se rendre acceptable, mais c'est notre pays autant que c'est le vôtre.
Ouais.
Et ça c'est et à partir de là, dans ce cadre-là, effectivement, on a des droits et des devoirs, mais on a aussi des dérives possibles, on a aussi de la violence possible, on a aussi de la révolte possible. Parce que c'est un petit peu ce qu'on demande aux immigrés, c'est-à-dire qu'on ne le ferait pas vis-à-vis des Français de souche. Les Français de souche, en général, bon, ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent commettre des délits, ils peuvent faire des choses comme ça. Mais bon, lorsque c'est un immigré, on a l'impression que non, que sa citoyenneté est conditionnée au fait d'avoir un comportement un peu orthonormé, quoi, très correct, plus correct, et d'avoir moins de liberté finalement que ne pourrait l'avoir, même pour ceux déjà qui ont la nationalité française, même s'ils sont issus de l'immigration, que pourraient l'avoir des Français de souche, etc., etc. Donc, et ça, c'est un discours un petit peu dangereux, parce que c'est via le traitement de la question de l'immigration qu'on limite nos propres libertés individuelles et collectives, mais pour tous les Français. Mais on prend toujours à témoin que c'est un peu ça, c'est un peu, nous, on a publié des extraits d'un texte là, qui était paru dans mon diplôme de Mathieu Rigous, qui disait, l'immigré, mais qui a réussi. Comme s'il y avait une espèce de menace sourde comme cela dans la figure de l'immigré qui faisait que... mais qui a réussi en plus? Que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi réussir? Dans quel cas? Dans quelle société?
Réussir. Et après, c'est vrai que quand tu parlais de docilité, c'est ça. C'est que, justement, ça prouve bien qu'il y a d'un côté certaines personnes et de l'autre d'autres personnes. Alors que, chacun son message. Demain, tu as un immigré qui va te réciter des poèmes, et voilà, c'est son problème. Il y en a un autre qui va te parler de violence, et voilà, c'est son problème. Il y a un mec type européen qui va parler. Chacun a son discours. Il y a ceux-là, donc ils doivent se dire ces choses-là, ils doivent se comporter de telle façon. Et d'un côté, t'as d'autres, ils doivent se comporter. Chacun, chaque personne, il y a des individus partout. Chacun est différent, chacun a son histoire différente. Que ce soit en banlieue, même dans un immeuble, il y a chacun, même à l'étage de ton immeuble, chacun est différent. Donc aujourd'hui, chacun écrit ce qu'il a à dire, peu importe d'où il vienne, chacun raconte son histoire. Et c'est que dans l'esprit des gens, ça prouve bien que dans l'esprit des gens, on met les gens dans des paniers et on doit se comporter selon où on habite, selon sa couleur de peau, selon sa couleur des cheveux, selon la couleur de ses yeux. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et aussi, quand tu parlais de docilité, je pense que il y en a qui veulent pas. C'est la peur, quoi. Aujourd'hui, on fait un collectif, t'as l'impression qu'on est venu pour manger le pain des gens, c'est la peur, justement.
Est-ce que vous avez eu des attaques, genre, oui, ce collectif, c'est un peu communautariste, etc.?
Bien sûr, on a eu ces problèmes-là, communautarisme, avec tous les clichés. Il y a deux filles, comment ça se fait dans un collectif qu'il y a deux filles? C'est le hasard qu'il y ait deux filles. C'est qu'on a trouvé deux filles, si vous voulez, qu'il y ait six filles, ça ne nous dérange pas. On ne fait pas de tournante chez nous, ne vous inquiétez pas, on n'est pas venu manger votre pain. On est juste venu pour écrire des histoires, tout simplement. Et faut arrêter, quoi. C'est surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de peur, quoi. Oui. Quand tu vas faire un truc comme ça, tu as l'impression que c'est nous contre eux. Le but, c'est de pouffer la place, de prendre la place des autres. Alors que sinon, c'est juste... écrire des nouvelles, donner la parole à certains, c'est tout, basta. Chacun est libre d'écrire ce qu'il a envie d'écrire. Il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à confondre des problématiques qui sont interprétées comme des attitudes communautaristes avec tout simplement l'expression de la solidarité, souvent. Hein, c'est-à-dire, on crée un collectif, donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de solidarité. On n'est pas des carriéristes littéraires, chacun confiné dans son secteur. On essaye de faire. Et ça, après, ça peut être interprété parce que justement, il y a une question de couleur de peau comme une espèce de réflexe communautariste. C'est stupide.
Ouais, et puis à 10, ça fait peur aussi. 10 personnes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est une bande, c'est un gang. Ouais. Donc voilà, ça fait peur. Mais nous, notre but, c'est juste d'écrire nos nouvelles. Les gens, je pense qu'ils ne se connaissent pas assez. Quoi. Qu'ils veuillent ou non, ils ont beau être soi-disant intellectuels. La peur, ça ravage tout le monde. Et voilà, là, mais quand tu ne connais pas, t'as beau habiter à Paris, la ville des Lumières, où tout le monde est intelligent, quand t'as la banlieue qu'à côté, ils ne la connaissent pas. Hein. Donc, ils ont tout ce qu'ils voient à la télé, ça... Tout ce qu'ils entendent, ça, qu'ils le veuillent ou non, ça rentre dans leurs esprits et ça leur fait peur. Donc voilà.